Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour les 30 prochaines minutes. Au sommaire de cette émission, des cours d'immersion française, ça vous dit d'en suivre ou d'en donner. La caravane de la Grande Virée de l'Association canadienne des professionnels de l'immersion traverse le pays à la recherche de futurs profs et fait un arrêt à Fredericton. Vous verrez, il s'y passe des choses qu'on ne soupçonne pas.
Il y a 17 300 enseignants en immersion française et ça continue d'augmenter. On parle d'une hausse des inscriptions d'environ 5 % par année depuis 20 ans. C'est ce qui explique qu'on est sur la route pour tenter d'allumer l'étincelle chez les jeunes, surtout ceux qui sont inscrits dans les programmes d'immersion française.
Et on vous parle de la marche La rue, la nuit, Femmes sans peur, une marche qui se tenait un peu partout au pays et ailleurs dans le monde.
C'est qu'on a toute peur de marcher seul la nuit. On a toute peur que quelque chose va nous arriver. Et si quelque chose nous arrivait, il y aurait une petite voix intérieure qui nous dirait « Pourquoi t'as marché seul? Pourquoi t'étais habillée comme ça? Pourquoi tu es rentrée à la maison avec personne pour te protéger? » Puis c'est ça qu'on dénonce. On devrait pas avoir à se protéger, on devrait pas faire des cours d'autodéfense, on devrait pas devoir se méfier d'être agressé sexuellement. Peu importe que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, peu importe le contexte.
Bienvenue à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Et nous lançons l'émission dans l'est du pays, mais avant vous dire qu'on a une pensée pour nos concitoyens, concitoyennes qui ont et qui passent toujours un mauvais moment suite au passage de l'ouragan Fiona et en particulier ceux qui résident à Terre-Neuve et Labrador, la Basse-Côte-Nord, l'île du Prince-Édouard, le Cap-Breton, Nouvelle-Écosse. Salutations d'ailleurs à notre collaborateur Daniel Aucoin qui est à Chéticamp. C'est sous l'appui que la caravane de l'Association canadienne des professionnels en immersion s'est arrêtée à Fredericton pour y rencontrer des jeunes de la 10e à la 12e année, un voyage qui était loin d'être désintéressé. La caravane qui espère y recruter ses futurs enseignants en immersion francophone. Chaque année au Canada, le nombre d'inscriptions d'élèves en immersion en français croît de 5 %, croyez-le ou non, ce qui n'est pas le cas du nombre de professeurs. Dans certaines provinces canadiennes, la pénurie de personnel est telle qu'elle mettrait en danger l'existence même du programme. La CPI est donc en mode séduction, vitesse grand V, pour attirer des jeunes vers ses carrières et contribuer, elle l'espère, à sauver en quelque sorte le bilinguisme au Canada. À Fredericton, Sébastien Caron est en compagnie de Marie-France Gaumont, organisatrice de la Grande Virée.
L'Association canadienne des professionnels de l'immersion était de passage à Fredericton pour la Grande Virée. Le but, recruter de futurs enseignants en immersion française. Marie-France Gaumont, organisatrice de l'événement.
La CPI, en fait, c'est l'Association canadienne des professionnels de l'immersion. Donc, c'est vraiment l'organisme national qui s'occupe des enseignants en immersion française partout au pays. Il y a 17 300 enseignants en immersion française et ça continue d'augmenter parce que les besoins sont très grands au niveau de l'immersion française. On parle d'une hausse des inscriptions d'environ 5 % par année depuis 20 ans. Alors, c'est costaud et ça demande de nouveaux enseignants. Alors, c'est ce qui explique qu'on est sur la route pour tenter d'allumer l'étincelle chez les jeunes, surtout ceux qui sont inscrits dans les programmes d'immersion française, parce que ce qu'on découvre, c'est que trois fois sur quatre, ceux qui deviennent enseignants en immersion française sont d'anciens élèves. Alors, on s'en vient leur parler des carrières, on vient animer une chasse au trésor qui a des questions là, au sujet de cette grande communauté d'enseignants en immersion française.
Cette grande virée vient de passer une semaine au Nouveau-Brunswick, mais ça n'était pas le début de l'aventure dans l'Est.
L'aventure de l'Est a commencé le 8 septembre dernier et on a commencé avec l'île du Prince-Édouard. Donc, on a fait 6 écoles et là, on a poursuivi en Nouvelle-Écosse. Et là, on passe la semaine avec vous au Nouveau-Brunswick. Et puis, on se dirige vers le Québec et on va terminer avec l'Ontario. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'an dernier, on a fait l'Ouest canadien. Donc, on a commencé à Victoria, sur l'île de Vancouver. Et on a fait toutes les provinces de l'Ouest pour finalement terminer en Ontario, avec une partie de l'Ontario. Donc là, on va vraiment terminer et on va l'avoir fait, cette tournée d'Ouest en Est.
7 500 km dans l'Est, 12 000 km dans l'Ouest, une aventure culture pancanadienne née d'une consultation elle-même pancanadienne menée par l'Association canadienne des professionnels de l'immersion en 2018. Cette étude avait pour but d'identifier les problématiques rencontrées par les professionnels de l'immersion dans leur réalité du terrain et elle a permis de mettre en lumière trois grands enjeux que nous décrit Marie-France Gaumont.
Le plus grand d'entre tous, c'était vraiment la pénurie d'enseignants qui déjà pointait son nez avec force. Alors, l'ACPI a construit son plan stratégique en conséquence de ces trois enjeux-là et a donné naissance à sa grande stratégie de recrutement et de rétention d'enseignants en immersion française qui a plusieurs composantes, plusieurs activités, dont la Grande Virée. Et la Grande Virée, en fait, elle est née d'une contrainte, la contrainte qui a été imposée par une certaine COVID et qui a fait en sorte qu'on n'a pas pu aller se déplacer dans 25 villes par année pendant les années de la mise en œuvre de cette stratégie-là parce qu'il y avait la COVID et des contraintes sanitaires. Alors, on s'est dit comment on est capable d'aller à la rencontre des gens d'une autre manière. Et c'est là qu'est venue l'idée de prendre une caravane et de se déplacer de ville en ville, d'aller visiter les jeunes dans les écoles. Puis là, je dis dans les écoles, mais en fait, c'est plutôt sur le terrain de l'école parce que nos activités se passent toutes en extérieur.
Cette initiative semble porter ses fruits, mais les résultats définitifs ne seront connus que dans quelques années. Lorsque nous pourrons décompter parmi les presque 4000 jeunes rencontrés au pays, ceux qui vont suivre la voie de l'éducation et iront au bout du cursus leur permettant d'obtenir un diplôme en éducation.
En fait, la caravane, c'est un clin d'œil, hein, je vous le dis, parce que les jeunes, on sait, les jeunes candidats qui cherchent un emploi veulent beaucoup bouger. Alors, ils sont en quête d'aventure, ils veulent se déplacer, voyager, et on pense que la van life vient traduire un peu ce besoin-là. Et quand on est enseignant en immersion française, bien évidemment, on peut se déplacer dans les 12 provinces et territoires qui offrent des programmes d'immersion au Canada, et on pourrait vivre l'aventure du Nord autant que de l'Ouest ou de l'Est, selon ce qu'on a envie d'année en année, tout en restant enseignant en immersion française. Et ce qui arrive quand on se déplace dans les écoles, on a une chasse au trésor et ça met les jeunes vraiment de bonne humeur parce qu'ils sont déplacés en équipe. On a des questions justement qui leur font réfléchir aux carrières en immersion et aux possibilités. On rencontre les 10, 11 et 12e années qui sont inscrits dans les programmes en immersion. On se déplace sur les campus universitaires aussi pour deux types d'activités. Une activité qui s'appelle le job dating professionnel. Alors, elle est offerte à ceux qui sont inscrits dans des programmes en éducation qui leur permettraient de devenir des enseignants en immersion française. Et ils accordent de mini-entrevues de 10 minutes à des conseils scolaires qui sont placés un peu partout au pays, qui se branchent en ligne dans notre Margot. On l'appelle Margot, notre caravane. Elle a un nom tellement on y est attaché. Et donc, ils viennent s'asseoir dans la caravane et sont branchés avec quelqu'un des ressources humaines d'un conseil scolaire participant. Et donc, ils peuvent se pratiquer un peu à accorder des entrevues à ces conseils scolaires-là. Il y en a toujours un local, mais les autres viennent d'ailleurs. Donc, ça ouvre aussi les horizons pour les jeunes candidats. Et l'autre activité qu'on fait, c'est un quiz au sujet des carrières en immersion. On était à Moncton hier, justement, dans le cadre d'une foire d'emploi et les étudiants ont beaucoup apprécié. On a des petites questions, on leur remet des petits prix et c'est toujours sous le thème de cette réalité-là de cette grande famille des enseignants en immersion française.
Une initiative dont les coûts sont supportés par l'ACPI et notamment par des financements obtenus auprès de Patrimoine Canada via sa stratégie pour les langues officielles. Une démarche qui cherche aussi à être éco-responsable.
Ce que ça demande, en fait, c'est des coûts d'essence. Et l'ACPI, elle a un côté très éco-responsable. Donc, on donne à Arbre Canada pour compenser nos émissions de carbone. Et on a planté un arbre l'an dernier quand on est passé sur le campus de Simon Fraser University, qui est le point le plus à l'ouest de notre grande virée. Et cette année, on va en planter un quand on va être de passage à Terre-Neuve. Alors, on aura fait vraiment l'ouest à l'est. Et tout ça, c'est symbolique toujours pour dire qu'on remet. Donc, au niveau des coûts, en fait, c'est un peu moins cher que de prendre l'avion et de se rendre dans 25 villes par année. Faut comprendre aussi que cette mise en œuvre de grandes stratégies, elle est appuyée par Patrimoine canadien via sa stratégie pour les langues officielles.
Marie-France Gaumont, organisatrice de l'événement, ayant eu la chance de voyager partout au pays avec cette campagne de recrutement, a également pu analyser la problématique de la pénurie de main-d'œuvre. Et il semble que ce soit bien la même chose partout au pays pour ce qui est de l'enseignement. Mais elle reste positive et a une idée précise de ce qu'elle dirait à un jeune qui n'aurait pas encore croisé la grande virée pour l'amener à considérer une carrière dans l'enseignement en immersion française.
Bien, d'abord, je leur parlerai de cette grande famille. J'y fais référence depuis tantôt, mais moi, c'est ce qui me marque chaque fois que j'arrive dans une ville, que je suis accueillie dans une école. Cette espèce de lien tissé serré auprès des enseignants en immersion qui sont très nombreux à travers le Canada et qui se soutiennent mutuellement, bien, c'est probablement une des choses qui est importante. Quand on devient enseignant en immersion française, on est souvent seul dans une école. Donc, de savoir que ce réseau-là nous soutient et est très fort, c'est déjà quelque chose d'intéressant. L'autre élément, c'est que les jeunes sont tellement fiers de parler français et de l'apprendre que les enseignants à qui on parle nous disent tous la même chose. Ils sont ébahis des progrès de leurs élèves et ça les nourrit énormément. Alors, je pense que c'est très gratifiant et valorisant et c'est pas pour rien que tantôt je vous mentionnais que on note que 3 enseignants sur 4 qui sont dans les systèmes d'immersion français sont d'anciens élèves. Et quand on leur demande pourquoi vous êtes devenu enseignant, ils nous répondent presque toujours la même chose. Je voulais remettre le cadeau de la langue française que j'ai moi-même reçu pendant que j'étudiais. Alors, moi, je pense que c'est une des choses les plus précieuses. Et ça, bien, je pourrais continuer en vous parlant de la facilité de voyager à travers le pays, la flexibilité aussi qu'on vous offre et tous les avantages parce que c'est très valorisé dans les milieux des enseignants en immersion française.
Ici Sébastien Caron à Fredericton.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la Baleine en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
Il est temps d'ouvrir notre périscope et de jeter un coup d'œil à ce qui se passe un peu partout au pays. On se tourne d'abord vers le Manitoba, où vient de se conclure le 25 septembre dernier au théâtre Gas Station de Winnipeg, la 5e édition du Festival de films africains du Manitoba. À l'affiche des films en provenance de 16 pays tels que la Somalie, le Kenya ou le Nigeria, parmi eux le très récompensé Mama Blues de Mamadou Sokrate Diop du Sénégal, Memories from Mothers de Lajid Ajala du Nigeria et The Gravedigger's Wife de Kadar Aiderius Ahmed de Somalie. Le cinéaste nigérian Tunde Kelani était d'ailleurs l'invité d'honneur du festival. Le directeur et fondateur du 5e Festival de films africains du Manitoba, Winnipeg, Ben Ako, était au micro d'Aurélie Forson.
Il y a beaucoup d'Africains qui habitent ici au Manitoba. Il y a aussi beaucoup d'Africains qui habitent au Canada. Nous, Canadiens, n'avons pas le savoir pour bien intégrer les Africains. C'est nécessaire pour qu'on ait une plateforme pour discuter sur la culture africaine. Pour moi, le film, c'est une meilleure plateforme. En fait, tous les films qu'on a projetés, c'est dans la langue africaine. Mais tous les films sont sous-titrés. Notre première audience, c'est toujours les anglophones, mais on est soutenu les jeunes hommes et les jeunes filles, les jeunesses, pour qu'ils créent le film ici au Manitoba, parce qu'on a un endroit pour renforcer les capacités des jeunesses noires, les jeunesses noires qui habitent ici au Manitoba, pour qu'ils rencontrent ça, leur histoire avec les caméras.
Et Raphaël Hamel, notre nouveau collaborateur à Yellowknife, nous rapporte que les 3 campus du collège Aurora, d'Inuvik, de Fort Smith et de Yellowknife seront transformés en université polytechnique, laquelle vient d'ailleurs de publier le plan directeur de ses futures installations. Les 3 sites seront aménagés afin d'accueillir beaucoup plus d'élèves et leur offrir, bien sûr, un meilleur accès aux études postsecondaires. Les commerces de détail de la Basse-Côte-Nord ont dorénavant accès à de nouveaux outils de développement numérique grâce à l'entrée en scène du programme Mon commerce en ligne, proposé par la MRC du Golfe du Saint-Laurent. Plus de 2 ans après le déploiement de l'Internet haute vitesse en Basse-Côte-Nord, les commerces de détail admissibles pourront profiter pleinement des avantages que leur procurent les technologies numériques. Le programme Mon commerce en ligne, né d'un effort concerté entre l'Association québécoise des technologies et l'École des entrepreneurs du Québec, est financé par les gouvernements du Québec et du Canada, la MRC du Golfe du Saint-Laurent y collabore bien sûr. Mon commerce en ligne leur offre une centaine d'heures de formation et 14 heures d'accompagnement individuel avec des professionnels du numérique et des affaires afin d'établir un diagnostic numérique personnalisé de leur entreprise. Michael Lambert, agent de développement régional Accès Entreprise Québec pour la MRC du Golfe du Saint-Laurent, est en compagnie de notre journaliste Pénélope Clermont.
L'objectif, comme je le disais, c'est vraiment le commerce de détail, mais aussi des entreprises qui sont proches. Puis on sait qu'en Basse-Côte, ça fait quand même une bonne partie de nos emplois qui touchent le commerce de détail. Dans chacun des villages, c'est souvent parmi les services là, qui restent, qui existent encore. Donc c'est important pour nous là, d'avoir vraiment la pointe de ce qui se fait pour le commerce de détail. L'idée, c'est pas de transformer chacun de nos commerces en petit Amazon sur la Basse-Côte. Donc l'idée, c'est que lorsqu'un promoteur veut améliorer son entreprise, faciliter ses opérations, bien, il y a différents outils qui existent. Puis il y a des outils aussi qui ne sont pas visibles pour les clients. Ça peut être simplement de simplifier, par exemple, la gestion d'inventaire. Et l'avantage qu'on a justement, pourquoi qu'on a signé un partenariat, c'est justement pour sensibiliser l'équipe de Mon Commerce en ligne à c'est quoi la réalité de la Basse-Côte-Nord. Et lorsqu'on a un promoteur qui veut faire appel à leur service, bien, il y a pas, la personne n'a pas à passer à travers toutes les étapes. On a eu Internet il y a juste 2 ans, c'est tout récent, les gens ne sont pas habitués. Non, l'équipe est tout à fait au courant, mais à partir de où ce qu'on est aujourd'hui, bien, il y a quand même moyen d'avancer. Mais ce contenu-là de Mon Commerce en ligne, d'une part, il a été préparé spécifiquement pour le commerce de détail.
Sylvie Charrette vient d'être nommée directrice générale du journal Le Droit. Elle travaille dans le monde des médias depuis plus de 30 ans. Elle fait ses premières armes dans le monde de la radiodiffusion en tant que représentante publicitaire, directrice des ventes, directrice des promotions et du marketing, puis comme directrice de la programmation. Elle sera enfin en 2009 nommée directrice générale chez RNC Média. Le journal Le Droit qui a traversé comme tant d'autres les mutations du numérique et Sylvie Charrette était aux premières loges quand elle y est arrivée. À Ottawa, notre journaliste Marie Hélès lui a tendu son micro.
Le droit est né d'une bataille parce que le gouvernement de l'époque voulait fermer les écoles francophones au complet. Alors, les pères au blas de l'époque et les femmes, les parents, se sont levés debout pour dire « il n'est pas question ». Et donc, le droit naissait de cette première bataille pour sauvegarder le français.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chéticamp en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Ferme l'émission là où est Marie Hélès, aussi notre journaliste Yasmina Dagri en Ontario. La marche La rue, la nuit, Femmes sans peur s'est tenue le 22 septembre dernier à Ottawa, mais aussi ailleurs au pays et dans le monde. Cette marche a été organisée à Ottawa par le Centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles de l'Outaouais. La violence faite aux femmes, on le sait, affecte une Canadienne sur 3. L'idée derrière cette marche est d'unir donc les survivantes, alliées et militantes, afin de revendiquer et de dénoncer cette violence et bien sûr pour sensibiliser l'ensemble de la population à tout type de violence et pour que les femmes puissent se réapproprier des espaces publics jugés non sécuritaires. Ces femmes donc sont venues marcher en souvenir de toutes celles qui ont été assassinées dans le monde et ici au pays. Et on a en mémoire, bien sûr, l'Iranienne récemment arrêtée et tuée en détention pour ne pas avoir respecté les normes vestimentaires en vigueur dans ce pays. Une mort qui a évidemment mis le feu aux poudres en Iran. Yasmina Dagri est à Ottawa en compagnie de Gabrielle Pelletier, coordonnatrice communautaire du Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel.
La marche La rue, la nuit, les femmes sans peur, c'est une traduction en français d'un événement qui s'appelle Take Back the Night en anglais. Et initialement, c'est quelque chose qui avait été... La première marche Take Back the Night a eu lieu aux États-Unis il y a plus de 40 ans. Et c'était pour dénoncer l'exploitation sexuelle, la violence à caractère sexuel. Et cette action-là a été maintenue. Plusieurs villes ont commencé à le faire également. Et c'est ainsi que dans plusieurs villes un peu partout dans le monde, au Canada, les groupes de femmes, les militantes se rassemblent et organisent dans leur ville une action qui s'appelle « La rue, la nuit, les femmes sans peur ». Quand on parle de la rue, la nuit, les femmes sans peur, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pour dénoncer la violence qu'on peut subir dans les rues, la peur de marcher seule, la peur d'être agressée sexuellement, mais de façon plus large, quand on sait que les agressions sexuelles sont commises très souvent dans un endroit où on se sent en sécurité, où est-ce qu'on se croit en sécurité par des gens en qui on a confiance, il faut regarder cette problématique-là de façon beaucoup plus large que les agressions à caractère sexuel durant la nuit. Cette phrase-là, ce qu'elle sous-entend, c'est qu'on a toute peur de marcher seule la nuit. On a toute peur que quelque chose va nous arriver. Et si quelque chose nous arrivait, il y aurait une petite voix intérieure qui nous dirait « Pourquoi t'as marché seule? Pourquoi t'étais habillée comme ça? Pourquoi tu es rentrée à la maison avec personne pour te protéger? » Puis c'est ça qu'on dénonce. On devrait pas avoir à se protéger. On devrait pas faire des cours d'autodéfense. On devrait pas devoir se méfier d'être agressé sexuellement, peu importe que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, peu importe le contexte.
Vous, en tant que centre d'aide de lutte contre les agressions sexuelles, quels sont par exemple les services que vous offrez aux personnes que vous recueillez qui sont victimes d'agressions sexuelles?
C'est une question extrêmement importante. Les survivantes, nous on va utiliser le mot survivante pour parler des personnes qui viennent chercher des services chez nous, vont faire appel au CALACS et vont faire une demande de service. Et une fois que ça c'est fait, on va établir le lien avec cette femme-là, faire une rencontre pour évaluer la situation, les besoins. J'aime pas le mot évaluer, et comprendre les besoins de la survivante, un peu l'historique et quelles ressources elle a présentement, c'est quoi les outils qu'elle a. À ce moment-là, on peut éventuellement offrir un suivi individuel. Le suivi individuel, ça va être une rencontre, par exemple, une fois par semaine avec une intervenante. Et on va vraiment travailler les conséquences des agressions sexuelles. Puis ça passe par toutes sortes de techniques d'intervention. On travaille beaucoup avec les sens, avec l'art, thérapie par le jeu de sable, interprétation des rêves de façon vraiment guidée par la femme, vraiment dans l'approche d'intervention féministe. Il va aussi y avoir les groupes de soutien. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour le CALACS, les groupes de soutien qui est un engagement assez significatif, là. Les femmes vont se rencontrer, des groupes de 6 ou 8 femmes, et ça va être vraiment un engagement soutenu pendant 12 semaines. Elles vont travailler ensemble, il va y avoir des thèmes, il va y avoir des temps de partage, et il y a toute une solidarité, puis un appui, puis une compréhension qui s'installe entre ces femmes-là. C'est vraiment puissant de pouvoir entendre les partages des autres femmes, puis se sentir moins seule, puis se sentir soudainement tout à fait comprise.
À notre époque, souvent, on se dit que les choses ont évolué, mais quoi les statistiques aujourd'hui des femmes qui se font, en fait, agresser sexuellement?
Ben, en fait, la problématique des agressions à caractère sexuel, on dit qu'une femme sur 3 au Canada va être agressée sexuellement au cours de sa vie. Les autres statistiques qui sont assez préoccupantes, c'est vraiment au niveau des déclarations faites à la police. Ça aussi, les statistiques sont extrêmement basses. C'est un crime très peu dévoilé. La grande majorité des agressions sexuelles sont commises par quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un en qui on a confiance. Puis ça, c'est probablement un mythe qu'on travaille souvent à déconstruire parce que souvent, on va dépeindre l'agression sexuelle comme étant quelque chose qui se passe justement dans un lieu sombre, peu éclairé. Puis encore une fois, c'est pas parce que ça n'arrive pas dans ces lieux-là. C'est juste parce qu'on a longtemps dépeint les agressions sexuelles comme étant des attaques dans des lieux comme ça. Tu sais, tu me parlais des changements de mentalité. C'est peut-être quelque chose qu'on parle de plus en plus. Puis c'est toujours des idées préconçues qui vont faire en sorte que les femmes, on va garder le silence parce qu'on va on va vivre avec de la honte, on va vivre avec de la culpabilité. Et on va vivre avec de la peur de pas être soutenue, de pas être accueillie avec ce qu'on vit.
Mais vous savez quoi, vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure, c'est que les agressions se font par des personnes qu'on connaît et oui. en qui on a confiance. Et vous venez oui. de dire aussi que souvent on a peur de parler, de peur d'être... C'est quoi la solution aujourd'hui ou une solution?
En fait, c'est une très grande question. Mais je pense que ça passe par faire connaître les services, faire connaître les ressources, dire aux femmes qu'elles ne sont pas seules avec ce qu'elles ont vécu. Puis souvent, on parle de... c'est de briser le silence, de dénoncer, puis tout ça. Puis oui, ce sont des choses importantes, mais dans un premier temps, je pense que juste le fait de savoir que quand on va être prête à parler ou quand on va être prête à entreprendre des démarches, il va y avoir des ressources, des personnes qui vont être là pour nous soutenir dans le processus. On peut pas y arriver seul. On peut pas porter ce fardeau-là toute seule, les services communautaires puis les militantes, parce que c'est énorme. Donc, il faut avoir des institutions qui se responsabilisent, qui mettent des choses en place. Puis à travers ça, ben tout le travail de sensibilisation, de prévention, de sensibilisation à faire, c'est qu'on soit toutes des gardiennes et des gardiens d'une culture du consentement et non d'une culture du viol.
Éduquer nos enfants, nos petits frères sur ce qui c'est que les agressions sexuelles, par exemple, aussi juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Revenons à la marche. Qui peut se joindre à la marche? Est-ce que c'est seulement des personnes, des femmes, seulement des femmes? Bon, bien, tout le monde est bienvenu à cette marche.
Donc, nous, ce qu'on met de l'avant lorsqu'on parle de ça, c'est qu'on... Ce qu'on souhaite, c'est que ce soit un espace par et pour les femmes. Et lorsqu'on dit femmes, ça inclut également les femmes trans, les personnes non-binaires, la diversité au niveau d'expression et d'identité de genre, ça en fait partie. C'est certain que, étant donné que c'est un espace de reprise de pouvoir par et pour les femmes, on demande aux hommes d'être présents comme alliés, pour supporter, pour appuyer, mais de ne pas prendre de leadership. Parce que l'objectif, c'est vraiment ça, c'est qu'on veut dénoncer et prendre notre place comme quoi on devrait pas avoir besoin d'avoir quelqu'un qui nous protège quand on marche la nuit, vous comprenez?
Mm-hmm.
Puis ultimement, nous autres, ce qu'on aimerait, c'est que les hommes qui souhaitent être des alliés le fassent dans plein d'autres sphères de leur vie. Tu sais, de sensibiliser leur entourage, leurs amis, leurs proches, quand on voit des comportements inacceptables, peut-être que c'est là que leur changement le plus significatif peut se faire.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
La cloche a sonné et c'est tout pour nous ici à Point de vue. Merci d'avoir été là. Avant de vous quitter, à vous qui nous écoutez en ce 30 septembre et aussi après cette date, nous tenons à saluer bien bas en cette journée nationale de la vérité et de la réconciliation nos concitoyens et concitoyennes autochtones. L'orange est la couleur apportée en ce jour pour rendre hommage aux survivants des pensionnats autochtones et bien évidemment pour aussi honorer la mémoire de tous les enfants qui ne s'en sont pas tirés. Ceci donc au nom de tous nos collaborateurs cette semaine que sont Marie Hillès, Sébastien Caron, Aurélie Forsen, Daniel Aucoin et Yasmina Dagri, notre coordonnateur national Stéphane Bénard, toute l'équipe aussi du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Nous observons ce congé férié national, cette journée du 30 septembre, journée nationale de vérité et de la réconciliation. Ici Boris Chassagne, au micro, il y a l'animation. Écoutez-nous sur canada-info.ca. Il y a une foule de topos qui vous attendent là-bas dans au moins deux langues. À bientôt.